Alors, chers amis, après que le tout début du Notre Père nous a fait adorer, aimer et bénir Dieu en nous mettant en sa présence lors des dernières rencontres, hein, au début des enseignements de cette année, voici que viennent maintenant les sept demandes du Notre Père. Les trois premières sont plus théologales, liées à Dieu directement, qui nous parle de Dieu, et les quatre dernières sont comme un chemin vers Dieu. Voyez ? Et nous allons traiter en particulier pendant cet après-midi les deux premières de ces sept demandes. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors, voyons d'abord le nom, dans la phrase « que ton nom soit sanctifié ». Le nom désigne la qualité propre et explicite de l'être que l'on nomme. Vous voyez ? Hein ? Le nom désigne la qualité propre explicite de l'être nommé. Et pour les Hébreux, le nom représente même la personne elle-même. Vous voyez ? Le nom représente la personne elle-même. Donc le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voyez ? Aimer, prononcer le nom de Dieu, prier en mon nom, comme Jésus le dit sans arrêt, c'est prier Dieu lui-même. Dieu se cache ou se révèle, voyez, dans son propre nom. Et Dieu s'est engagé vis-à-vis d'Abraham, au début de l'histoire de sa vie et de son alliance avec son peuple, mais sans lui révéler son nom. Dieu a parlé à Abraham sans lui révéler son nom dans un premier temps. Et c'est à Moïse que Dieu va commencer à révéler son nom, et il le révèle à tout le peuple en le sauvant des Égyptiens. Vous pouvez faire mémoire de cet événement dans le livre de l'Exode au chapitre 15, verset 1. Il s'est couvert de gloire, et je vous laisserai voir la suite de ce passage. Hein, c'est bien aussi que vous puissiez découvrir un petit peu par vous-même. Mais plus encore aussi, ce nom donc révélé à Moïse lorsqu'il était devant ce buisson. Et ça, cet épisode, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3. « Je suis celui qui est, dit Dieu. » Voilà, Marie-Christine, je t'entends. Tu m'entends ?
Ça y est, c'est bon.
Voilà.
C'est compliqué, mais c'est bon.
Voilà. Alors, je viens de commencer.
Voilà, je voudrais juste saluer toutes les personnes qui sont là. Hein.
Voilà. Elle tente.
Je veux dire mes regrets de ne pas être présente, effectivement.
Voilà, j'aurais tout expliqué. Vous entendez ?
Bon, alors c'est sûr.
Voilà. Donc, je viens de dire que le nom de Dieu est révélé à Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Je suis celui qui est. Voilà. Et alors il complète. Vous voyez, il y a deux parties dans la manière de se révéler, de révéler son nom. Je suis celui qui est, hein, qu'on va appeler par Yahvé, d'accord? Yahvé, alors qu'on ne prononce pas par respect des Juifs, parce que le nom de Dieu est imprononçable. Nous, on le remplace toujours par le Seigneur, par Dieu. Vous voyez, donc, le Seigneur, le Dieu de nos pères, c'est mon nom pour toujours. Vous voyez, Dieu donne son nom pour toujours. Vous voyez, la dimension universelle, éternelle de son nom, il la donne à Moïse. Et donc ce nom, c'est celui par lequel Dieu est désigné par son peuple. Vous voyez, le peuple qui s'est acquis par l'alliance, vous voyez, qui a été scellé sur le mont du Sinaï. Et ce peuple de Dieu a la mission d'être une nation sainte ou bien aussi consacrée. C'est le même mot en hébreu. Nation sainte ou saint ou consacré, ce sont des synonymes. D'accord ? Oui. Le peuple de Dieu a la mission d'être une nation sainte parce que le nom de Dieu habite en lui. Le nom de Dieu habite son peuple. Et comme Dieu est saint, le peuple reçoit la mission, la vocation, l'appel à être consacré à Dieu, à être saint comme Dieu est saint.
Je peux dire un petit quelque chose?
Oui, vas-y.
Alors, il me semble une chose, c'est qu'en fait, Dieu a vraiment demandé que les Juifs l'appellent Yahvé. Mais appeler le Seigneur Yahvé, ça implique d'être dans l'obéissance à ce qu'il demande. Et les Juifs, quelque part, ils perçoivent qu'ils ne sont pas toujours comme il faudrait qu'ils soient. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'osent plus prononcer ce nom.
Voilà, merci de cette précision. Alors, Dieu révèle son nom en accomplissant son œuvre, voyez, son œuvre de salut, bien sûr, son œuvre de sanctification, son œuvre qui ne se réalise pour nous et en nous que si son nom est sanctifié par nous et en nous. Voyez, la mission de Dieu de sauver les hommes, elle n'est possible que dans ce mystère d'alliance, encore une fois, voyez. Ce n'est pas un acte automatique, magique, de la part de Dieu. Il y a un engagement de la part de Dieu et un engagement de la part de son peuple et de chacun des membres de son peuple qui consiste à sanctifier, vous voyez, à ce que son nom soit sanctifié par nous et en nous. Hein? Et c'est le sens de la prière que nous disons, que ton nom soit sanctifié par nous et en nous. Que je puisse par ma vie te sanctifier, voilà, que ton nom soit sanctifié par moi et en moi, oui.
C'est-à-dire que quand je sanctifie le nom de Dieu, lorsque je suis dans l'obéissance à ce qu'il me demande, hein, alors que je blasphème le nom de Dieu lorsque je vis d'une manière qui est opposée à ce que le Seigneur attend que je vive. Hein, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais nous ne pouvons sanctifier le nom de Dieu, c'est pas la peine de dire le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, mais c'est vraiment en vivant selon sa volonté, selon ce qu'il nous demande, voilà, selon l'amour.
Voilà, pour le dire autrement, vouloir sanctifier le nom de Dieu et de l'invoquer en vain, c'est-à-dire sans vouloir faire sa volonté, et cela ne peut pas conduire à vivre cette communion de vie et d'amour que nous sommes appelés à vivre avec lui. Voilà.
Et faire la volonté de Dieu, c'est renoncer à mon petit moi égoïste qui veut les choses comme je veux et qui pense tout savoir, mais c'est vraiment renoncer à moi-même pour rentrer, pour laisser le Seigneur venir habiter en moi.
Et alors, vous voyez, malgré la loi sainte que Dieu a donnée sur le Sinaï, avec l'Alliance, Dieu a donné la loi, hein, sur la montagne. Et donc, malgré la loi sainte et la patience de Dieu, parce que Dieu a été patient envers son peuple déjà pendant des générations et des générations, eh bien, le peuple se détourne de lui et il profane le nom de Dieu. Il profane son nom parmi les nations. Et c'est pourquoi les justes de la première alliance, les pauvres, qu'on appelle aussi les Anaouim, eh bien, ils sont revenus d'exil. Et les prophètes ont été brûlés par la passion du nom de Dieu. Vous voyez, brûlés au sens positif du terme, hein, pas au sens de détruit, mais ça, c'est brûlés d'amour. Vous voyez, brûlés d'amour pour le nom de Dieu. Ils ont compris que ce nom-là était important et que le prononcer engageait profondément ceux qui voulaient le prononcer. Et finalement, c'est en Jésus que le nom de Dieu, saint, nous est révélé et donné, dans la chair et comme sauveur. Puisque, vous le savez, le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Hein? C'est ce qui est révélé par l'ange à la Vierge Marie à l'Annonciation. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça, vous pouvez le retrouver aussi en Luc au chapitre 1.
Alors peut-être une petite question à se poser dans ce temps d'avant que nous vivons actuellement, c'est de quoi ai-je besoin d'être sauvé ? Hein, et sauver, c'est pas une petite chose à arranger. Hein, c'est sauver. Je suis en pleine mer, mon bateau a coulé. Hein, et si quelqu'un ne vient pas me sauver, ben je meurs. Hein. Donc je crois que c'est peut-être important, justement dans ce temps liturgique que nous vivons, de pouvoir se poser cette question, de quoi ai-je besoin que le Seigneur me sauve ?
Alors ce nom du Dieu Saint, il est révélé par ce que Dieu est lui-même. Il est révélé par sa parole, deuxièmement, vous voyez. La sainteté de son nom nous est révélée par sa parole et par son sacrifice. Vous voyez, les trois dimensions de la révélation du nom de Dieu, par le sacrifice, c'est-à-dire le don que Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, fait de sa personne. Le nom de Dieu se révèle par ce renoncement, par amour, à sa propre personne, vous voyez, pour chacun de nous, pour nous sauver. Et ça, on peut le découvrir dans la prière de Jésus, qu'on appelle la prière sacerdotale, que vous pourrez redécouvrir, si vous le voulez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Et c'est parce que Jésus sanctifie lui-même le nom de Dieu, voyez, que Jésus nous manifeste le nom du Père. Voyez. En sanctifiant le nom de son Père, il nous révèle l'origine paternelle de son nom. Vous voyez, le nom de Dieu est lié à cette dimension créatrice dont nous avons déjà entendu parler dans le début de la prière du Notre Père, dans cette dimension d'origine, cette dimension de création, et qui est révélée par Jésus, qui sanctifie le nom de son Père par son sacrifice. Vous voyez, et qui vient accomplir la création, qui vient recréer notre humanité. Hein. Le salut, c'est vécu comme une recréation.
Oui. Alors c'est ainsi que nous avons besoin, nous aussi, de vivre, hein, en manifestant ce nom du Père, que les personnes, en nous voyant vivre, se disent, mais c'est pas lui ça, c'est quelqu'un d'autre, et arrive à découvrir le Père. C'est notre manière d'évangéliser. C'est-à-dire que ce que le Christ a vécu, nous sommes aussi appelés à y participer, avec notre pauvreté, avec notre faiblesse, bien sûr, mais aussi en laissant vraiment le Seigneur prendre possession de nous pour que nous puissions, que, en nous voyant vivre, les personnes se disent « Ah, tiens, ça, c'est pas de lui, c'est de quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu, et c'est un moyen d'évangélisation très, très certain.
Et donc, ce que dit Marie-Christine, c'est... le reflet de ce que Jésus vit par rapport à son Père, voyez. Et donc, Jésus dit dans sa prière, je vais en citer juste une phrase, « J'ai manifesté, » et Jésus parle à son Père, hein, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tiré du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Voyez. La sanctification du nom, elle est liée par l'action de Jésus, voyez, qui reçoit le peuple qui appartient à Dieu, chacun de nous, chacun des membres, et ce peuple à qui Jésus se donne, voyez, et qui est appelé à découvrir ce nom de Dieu et cet amour et cette présence de Dieu dans sa parole. Et vous savez combien, avec Marie-Christine, nous insistons, et à temps et à contre-temps, parce que Dieu lui-même nous le dit, ce n'est pas un dada de Marie-Christine ou du Père Luc, c'est un dada de Dieu lui-même, si l'on peut dire. Voyez, c'est Dieu qui nous dit qu'il se révèle dans sa parole. Voyez, et il nous appelle à garder sa parole, sans arrêt. Et au terme de sa Pâque, la Pâque de Jésus, le Père donne à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez ? Et ça, c'est au terme de sa Pâque, de sa passion et de sa résurrection, que Jésus reçoit ce nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi ? Parce qu'il a accompli sa mission, la mission de Dieu qui est de nous sauver. Et lorsque Jésus est ressuscité, en puissance, tous les hommes sont sauvés. Il est venu les sauver tous par le don de sa vie. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 9, pour aller voir aussi même jusqu'au verset 11. Alors dans un deuxième temps, après avoir parlé du nom, la deuxième partie, que ton nom soit sanctifié. On en a parlé un peu, mais on va creuser davantage le sens de ce mot, de ce verbe, du sens profond de cette réalité de la sanctification. Alors il nous faut reconnaître que Dieu seul est saint. C'est peut-être évident, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Dieu seul est saint, trois fois saint. Et donc, seul Dieu sanctifie et peut rendre saint une personne, tous les hommes. Vous voyez, la sanctification est une œuvre de Dieu parce que Dieu seul est saint. Et donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est nous laisser sanctifier par lui en faisant sa volonté. On en a parlé tout à l'heure, un peu comme en prémisse, un petit peu trop tôt, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas inutile de le reprendre, vous voyez. Voilà. Se laisser sanctifier par lui, voilà. Voyez, donc, faire la volonté de Dieu, et, plutôt qu'en disant Seigneur, Seigneur. Voyez, hein, tel que Jésus le dit lui-même dans son évangile, un évangile qu'on a entendu cette semaine, voyez, à l'une des messes. C'était dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 21 et 22. Et puis, dans la lettre de Paul qu'il écrit aux Romains, au chapitre 2, versets 22 et 24, je le cite. « Toi qui dis ne pas commettre l'adultère, tu le commets. Toi qui as horreur des idoles, tu pilles les temples. Le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les nations. » Voyez ? Fin de citation. Pour le dire autrement, voyez, faire la volonté de Dieu, c'est une œuvre que nous n'avons jamais finie. Tous les jours, nous avons à chercher quelle est la volonté de Dieu et à l'accomplir. Et ne pas croire que nous sommes arrivés au bout du chemin et que nous sommes déjà saints. Si nous avons déjà, grâce à Dieu, la capacité de faire beaucoup de bien, remercions-le, c'est lui qui nous en donne la capacité. Mais reconnaissons que nous sommes encore loin d'accomplir tout le bien que Dieu attend de nous et que trop souvent nous faisons encore le mal, comme saint Paul nous le rappelle. Vous voyez, on a l'impression de ne pas être adultère et pourtant nous le sommes. Alors là, au-delà de l'adultère, vous voyez, il y a la question de la fidélité. L'adultère, ce n'est pas seulement la relation de l'homme et de la femme. Derrière, c'est le mystère de la fidélité à Dieu, dans le mystère d'alliance. Et nous sommes tous adultères, parce que nous sommes tous infidèles à Dieu. Soit parce que nous manquons de prier, soit que ensuite notre prière ne nous conduit pas à être fidèles à Dieu par notre vie et par nos actes. Voyez ?
Et aussi parce que nous nous enorgueillissons du bien que nous pouvons faire.
Voilà.
Ça peut être d'une manière très cachée. Hein, on se dit, mais non, je ne m'enorgueillis pas, c'est le Seigneur qui fait et tout. Mais au fin fond de nous-mêmes, il y a cette pointe d'orgueil. Vous savez que l'orgueil meurt un quart d'heure après notre mort.
Hein, dit la tradition.
Pardon, je n'ai pas entendu ce que tu as dit.
Dit la tradition, ce n'est pas une parole biblique.
Oui, vous avez raison. Oui. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours... Jamais nous ne sommes purs. On mélange toujours, même quand dans les choses bonnes que le Seigneur peut nous donner de faire, eh bien nous sommes toujours capables de mettre un peu d'amour propre, un peu d'orgueil, un peu de vantardise, un peu de tout ça, qui fait que, voilà, ça c'est ça, être aussi adultère.
Et cet orgueil...
Chercher son plaisir, sa gloire à soi, plutôt que la gloire de Dieu. Et ça, c'est d'une manière très cachée. On peut tout à fait ne pas s'en apercevoir. Il faut vraiment demander à l'Esprit-Saint qu'il éclaire cette chose-là.
Et donc, vous voyez, cet orgueil du bien que nous faisons, et on le fait dans l'application, vous voyez, sincère de la loi de Dieu. Dieu nous commande de faire le bien. Et lorsque nous le faisons, c'est une bonne chose. Mais l'orgueil qui se cache parfois, et plus souvent qu'on ne le pense, dans le fait d'accomplir le bien, eh bien, c'est comme, je dirais, un ballon, voyez, un ballon qui a tellement gonflé qu'il cache à mes propres yeux, voyez, le mal que par ailleurs je fais ou que j'ai fait, voyez. Et donc, ce ballon nous empêche, voyez, de reconnaître le bien que je fais. Je suis tellement fier du bien que je fais que je n'arrive plus à voir, à reconnaître le mal que j'ai fait ou le bien que je n'ai pas fait par ailleurs. Voyez, et donc du coup, je n'arrive plus à me remettre en question ce qui est une nécessité vitale de tous les jours. Voyez, voilà, parce que, comme on le dit si souvent, le juste va jusqu'à pécher 7 fois par jour. Hein? Et donc c'est un grave témoignage que nous pouvons donner lorsque nous nous enorgueillissons du bien que nous faisons et que nous affirmons que nous sommes sans péché. Voyez, pas plus tard que ce matin, j'ai encore une personne qui vient en confession, voilà, et puis qui dit que et qui se plaint de choses qui se passent mal dans sa vie. Et puis, une fois qu'elle a fini d'exprimer sa peine et de se plaindre de ses souffrances, de ses douleurs, voilà, je lui dis, mais et quel est votre péché ? Ah, ben, je suis pécheur, voilà, et tout, mais la personne n'arrivait pas à nommer son péché. Alors, je lui dis, vous savez, puisque vous n'avez pas de péché, elle dit, je n'ai pas plus de péché que ça, voilà, bon, je lui dis, du coup, il n'est pas nécessaire de vous confesser. Je lui ai dit, vous êtes une personne parfaite, je vais me mettre à genoux devant vous, voilà. Vous êtes une personne sainte et parfaite, je vais me mettre à genoux devant vous. Voilà. En plaisantant un petit peu, bien sûr. Et je l'ai invité à prier l'Esprit Saint pour que l'Esprit l'éclaire sur la réalité de son péché, car c'est une grâce que de connaître son péché. Hein. Même si c'est douloureux pour une part, c'est une grâce, parce que quand on découvre notre péché, alors du coup, on peut le présenter à Dieu et lui demander de nous en délivrer, pour accomplir davantage l'œuvre d'amour qu'il nous invite à faire, à accomplir.
Puis on s'attache à lui parce qu'on sait que sans lui, on est foutu.
Voilà.
Donc on a vraiment besoin de son salut.
Et voyez, l'orgueil du bien que nous faisons, il nous conduit à juger les personnes qui ne font pas le même bien que nous. Vous voyez, avec dureté, avec violence parfois. Lui, il ne fait pas la communion dans la bouche, il ne répond pas ceci ou cela, ou il a fait tel truc de travers. Vous voyez ? Et du coup, nous manquons de miséricorde, nous manquons de patience envers ces personnes, alors que Dieu a eu déjà tellement de patience envers nous avant que nous soyons capables d'accomplir tel ou tel bien. Vous voyez ? Nous n'accomplissons pas les mêmes biens et nous n'avons pas les mêmes péchés, et donc nous avons une infinie délicatesse, une infinie patience à avoir les uns envers les autres. Et voyez, à éviter de tomber dans ce piège de l'orgueil, voyez, du bien que nous accomplissons dans nos relations les uns avec les autres. Alors il dépend, voyez, inséparablement de notre vie, notre agir, pour le dire autrement, et de notre prière, que le nom de Dieu soit sanctifié parmi les nations. Parmi les nations. On a parlé un petit peu des nations, vous voyez, mais on va creuser ce mystère-là. La sainteté, pour le dire autrement, vous voyez, le but de la vie, ce n'est pas d'être saint dans son petit côté, dans son petit cocon, voilà, et puis les autres, je m'en fiche, ils se débrouillent, j'en ai rien à cirer. Non. Le désir d'être saint, c'est que tout le peuple soit saint, que nous soyons saints ensemble, vous voyez, que toutes les nations, c'est-à-dire tous les païens, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, au Dieu unique, découvrent l'amour de Dieu et puissent en vivre eux aussi. Ça n'a aucun sens de vouloir être sanctifié ou de sanctifier le nom de Dieu dans le désir de notre sainteté, vous voyez, si un seul être humain est laissé sur le carreau, sur le côté. Voyez, ça n'a aucun sens. Quel égoïsme, vous voyez. Et donc nous avons, pour le dire encore autrement, une responsabilité. Qu'as-tu fait de ton frère, dit Dieu à Caïn qui l'a tué. Voyez, suis-je responsable de mon frère? Mais bien sûr que oui, nous sommes responsables les uns des autres. Et le désir d'être saint, il doit être, voyez, brûlé dans nos cœurs pour que, en même temps, notre sainteté, ma sainteté, aide ceux qui sont autour de moi à le devenir aussi. Voyez, plutôt que de me plaindre qu'un tel et un tel ne font pas telle et telle chose bien comme il faut, et que je commence, comme dit Jésus, à regarder la poutre qui est dans mon œil, voyez, pour pouvoir enlever la paille qui est dans celle de l'œil de mon voisin, voyez, et que je cherche à me convertir pour emporter, voyez, dans la communion des saints, toutes les personnes qui sont autour de moi, et même celles que je ne connais pas, dans la communion des saints, dans l'invisible de l'amour, se joue, se noue un enjeu de salut pour toute l'humanité. Et il nous appartient de le croire et de le désirer.
Je voudrais juste réinsister, parce que tu l'as très très bien dit, mais il vaut mieux dire les choses deux fois qu'une.
Oui, oui.
Quand c'est des choses, ce sont des choses importantes comme ça, c'est que toujours marche ensemble et se soucie d'annoncer le Seigneur par sa manière de vivre et de sans cesse se remettre en question. Je pense que les deux sont intimement liés. Et tu l'as très très bien dit, mais je pense que c'est bien de le dire encore, parce qu'il y a certaines personnes qui ne pensent qu'à faire du bien aux autres, mais qui ne se remettent jamais en question. Et ça, il y a quelque chose qui cloche.
Absolument. Voilà. Merci. Et Paul, il écrit aux Éphésiens ceci, je le cite, « Que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Voyez, que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Immaculés, ça nous fait penser bien sûr à la Vierge Marie. Hein, nous sommes à quelques jours de l'Immaculée Conception et de la Vierge Marie. Et donc du coup, ce que vit Marie dans sa personne, parce qu'elle est la mère de Dieu, nous sommes tous appelés à le vivre d'une manière un peu différente, pas dans la conception immaculée bien sûr, mais à vivre ce mystère. Vous voyez, d'une union à Dieu sans mélange, c'est ça. Et de ne pas rechercher, vous voyez, avec orgueil le fait d'être des purs, mais de savoir que pécheur je suis et que saint je suis parce que je suis un pécheur pardonné. La sainteté, vous voyez, la sanctification, c'est le fait d'être un pécheur pardonné. Je ne me désole pas. Et je peux regarder en toute confiance et sans honte mon péché, parce que je sais que le mystère le plus grand, ce n'est pas le fait d'être sans péché, mais le fait d'être guéri, d'être pardonné de mes péchés. Là est le mystère du plus grand amour. Et le pape François de dire, je le cite, « La prière chrétienne consiste toujours à faire de la place à Dieu » en le laissant manifester sa sainteté en nous et en faisant avancer son règne, de le laisser exercer sa seigneurie d'amour dans nos vies. Vous voyez ? Exercer sa seigneurie d'amour dans nos vies. N'oublions pas, tout cela n'est jamais autre chose qu'un mystère d'amour, rien d'autre. Et la sainteté de Dieu, elle est donc manifestée dans la création et dans l'histoire, vous voyez, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de notre monde. Et l'Écriture l'appelle, cette sainteté, cette sanctification, elle l'appelle la gloire. En faisant l'homme à son image, Dieu le couronne de gloire. Vous voyez, Dieu couronne l'homme de sa gloire. Voilà le désir de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de sa sainteté. Il n'est pas jaloux de sa gloire. Il ne veut pas la garder, voyez, et nous considérer comme des moins que rien. Non, la joie de Dieu, c'est que nous participions, que nous partagions sa joie, sa vie, sa gloire, voyez, sa sainteté. Voilà le désir de Dieu. Mais en péchant, l'homme, évidemment, est privé de la gloire de Dieu, évidemment.
Et alors, je voudrais juste reprendre un peu le psaume 8. J'ai eu le temps de le lire.
Oui. Peut-être pas en entier, mais peut-être
Non, mais juste le dernier, l'implication de la gloire, justement.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, avoir conscience, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que le mortel pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu veuilles le visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds.
Merci.
Je m'arrête là.
Oui, merci. Et saint Paul, vous voyez, puisque on découvre encore une fois, vous voyez, toute la profondeur du mystère que nous sommes appelés à vivre dans la parole de Dieu, je cite saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 11. Vous vous êtes lavés, dit-il, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et on retrouve le nom de Dieu. Et donc, en toute notre vie, voyez, en toute notre vie, Dieu nous a appelés à la sanctification. Pour le dire autrement, il n'y a pas tel domaine de ma vie qui est consacré à Dieu. Et puis, oh ben quand même, je vais en garder un petit peu pour moi. Cette partie-là, elle n'appartient pas à Dieu. Je l'ai quand même déjà donné suffisamment. Ça, je le garde pour moi, quand même. Hein, voyez. Il faut pas abuser quand même des bonnes choses. Et donc, du coup, c'est pas pour le Seigneur, c'est pour moi. Voyez. Sous-entendu, Seigneur, ne viens pas trop t'occuper de cette chose-là dans ma vie. Laisse-moi faire un petit peu mes petites affaires tranquillement. Mais mes petites affaires tranquillement, c'est faire les choses sans Dieu, c'est forcément les faire contre Dieu. Et donc.
Est-ce que tu veux que je lise Romains 3 là ?
Oui.
Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus.
Merci. Vous voyez, donc ce que Marie-Christine rappelle, c'est que notre salut est lié à l'œuvre de Dieu. Pour le dire autrement, nous n'avons pas grand-chose à faire. Il ne s'agit pas de gravir les échelons, voyez, d'une échelle interminablement longue et haute, voyez, et inaccessible, non. La foi chrétienne consiste à laisser Dieu s'approcher de nous. Voilà, prendre l'ascenseur aussi, bien sûr, mais surtout, c'est surtout la différence de toutes les autres religions, la religion chrétienne a ceci de vrai et de beau et de paisible, voyez, et de réconfortant, que Dieu accomplit l'essentiel de l'œuvre. Bien sûr, nous avons une part, hein, il ne faut pas se le cacher, mais Dieu accomplit l'essentiel. Et il dit ça pour que nous ne perdions pas le courage devant l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Hein. Parce qu'évidemment, Dieu met la barre très haut. Mais comme dit Marie-Christine, voilà, en complément de ce que je disais, à la fois Dieu vient vers nous, c'est le mystère vers lequel nous avançons à Noël, il se fait homme, il descend du ciel sur la terre. Et puis en plus, il nous donne l'ascenseur, c'est-à-dire c'est lui qui nous aide lui-même à nous élever à sa hauteur. Hein, et c'est Jésus
c'est
lui-même.
C'est en rapport avec Sainte Thérèse. Hein.
Bien sûr.
L'ascenseur, c'est Sainte Thérèse.
Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr. Voilà. Et,
oui,
la,
oui.
Et l'ascenseur, c'est Jésus lui-même. Il se fait homme, il vit notre humanité avec sa passion et sa résurrection, et dans son ascension après sa résurrection, il nous prend avec lui. Vous voyez, il nous prend avec lui, l'ascenseur, c'est le Christ lui-même qui nous conduit dans la maison du Père, et imparfaitement, mais réellement déjà à chaque jour. Alors saint Cyprien disait ceci, qui pourrait sanctifier Dieu puisque lui-même sanctifie ? Vous voyez, puisque on dit que ton nom soit sanctifié, et par qui, comment ? Vous voyez ? Alors, mais nous inspirant de cette parole, je cite, il cite le Lévitique. Soyez saints parce que moi je suis saint. Nous demandons que sanctifiés par le baptême, voyez, sanctifiés par le baptême, nous persévérions dans ce que nous avons commencé à être. Il y a un début, un point de départ, et après il y a une progression tout au long de la vie. Voilà notre espérance. Voyez. Notre espérance, c'est que nous pouvons progresser chaque jour davantage. Même si nous ne ressentons pas, nous sommes appelés à désirer cette progression, à demander à Dieu de nous aider à progresser et à croire que même si nous ne le mesurons pas, il nous aide à progresser.
Et par l'amour qu'il nous donne d'avoir pour lui.
Voilà. Et Tertullien dit que nous demandons aussi que le nom de Dieu soit aussi sanctifié chez ceux qui ne connaissent pas encore le Sauveur, chez tous les hommes. Vous voyez, on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, toutes les nations. Vous voyez, mais voilà. Et la prière, en fait, maintenant, pour résumer toute cette première demande, que ton nom soit sanctifié, la prière à notre Père est notre prière si elle est priée dans le nom de Jésus, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. On l'avait dit, mais avec Marie-Christine, il nous a semblé bon de terminer en conclusion et de revenir sur cette dimension essentielle. Sanctifier le nom de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut, et non pas ce que je veux, qui risque parfois d'être erroné, d'être mal, de ne pas être forcément ce que Dieu
veut. Et on a toujours tendance à vouloir que le Seigneur arrange toutes nos petites affaires pour que tout aille comme je veux, comme le dit le Père. Alors qu'en fait, il s'agit de se saisir de tout ce qui vient nous contrarier pour voir que le Seigneur, à travers cela, nous invite à renoncer à nos petites pensées pour rentrer dans la volonté de Dieu.
Deuxième demande, que ton règne vienne. Par cette deuxième demande, l'Église a principalement en vue le retour du Christ dans sa gloire. Et ne perdons pas de vue, hein, que ton règne vienne, la visée première, ce n'est pas la seule, mais la visée première, essentielle, la venue dans la gloire, la venue finale du règne de Dieu, et au dernier temps, hein, pour le dire autrement. Elle prie aussi pour la croissance du royaume de Dieu, et ça c'est la deuxième dimension, hein, et prie aussi pour la croissance du royaume de Dieu aujourd'hui, dans chaque jour que nous vivons, de nos vies. Hein.
Je n'ai pas pris tout à fait au bon moment, hein, mais il est certain que la première partie de l'Avent est justement tournée vers ce retour dans la gloire du Christ. C'est souvent quelque chose qui est occulté, le Père Luc en a parlé hier dans son homélie, hein, mais il y a très très peu de prêtres qui le disent, hein, et c'est important de voir que justement ce début de l'Avent nous fait attendre la venue dans la gloire du Christ. Et c'est-à-dire que ça nous fait aussi penser à notre mort. Le Père Cantalamessa, hier, a donné une très belle instruction au pape et aux cardinaux, hein, justement sur le fait de regarder la mort, parce que notre vie, la mort, ce n'est pas une fin, c'est une entrée. Et donc, il faut préparer cette entrée et attendre la venue en gloire du Christ.
Et la deuxième dimension, donc, hein, la venue du règne aujourd'hui dans nos vies, nous en trouvons, voyez, le sens de ce règne-là dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 21, je le cite, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le règne, le royaume, vous voyez, les choses sont synonymes, bien sûr. Hein. Donc il est au milieu de vous, sous-entendu, en vous. Parmi vous, et au fond de vous-même, par le baptême, Dieu vient régner dans la personne qui reçoit le baptême. Et ce règne-là, encore une fois, bah, ça ne fait pas de nous des saints de manière immédiate, définitive et magique. C'est un chemin, voyez, avec toutes les hauts et les bas du chemin, mais sans céder à la tentation, ni du découragement, et encore moins du désespoir. La parole, dit le Deutéronome, la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Et le royaume est aussi un synonyme de la parole, encore une fois. Je ne peux pas vouloir que Dieu règne en moi, sur cette terre, voyez, comme au ciel, voyez, sans vouloir mettre en pratique la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu.
Et pour cela, il faut être imprégné par cette parole, pas seulement la lire d'une manière extérieure, hein, ou comme une connaissance, mais qu'elle vraiment elle vienne, elle soit comme un guide dans notre cœur pour se dire là, mais oui, la parole me dit de faire ça, hein, parce que l'amour, la charité se manifeste de cette manière-là, hein.
Et donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que je désire vraiment que le règne de Dieu vienne, avec tout ce que cela implique pour moi, comme appel à la conversion, voyez ? Parce que nous savons très bien, en général, voyez, je dis bien en général, qu'est-ce qui dans notre vie est contraire au règne de Dieu, contraire à la volonté de Dieu, contraire à la vérité de l'amour de Dieu.
Parfois, on a besoin vraiment que l'Esprit Saint vienne l'éclairer. Hein. Parce que comme on n'a pas, si on n'a pas trop envie de voir, on est un peu imperméable. Hein.
Et alors, depuis la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint, bien sûr, hein, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, voilà, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Et là, ce que je viens de citer, hein, qui poursuit son œuvre, hein, l'Esprit du Seigneur, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, c'est la citation, c'est un extrait de la prière eucharistique numéro 4. Vous savez que pendant la messe, il y a une prière qu'on appelle eucharistique, vous voyez, et qui est en lien avec toute la prière de Jésus, hein, voilà, et qui, par laquelle nous demandons au Seigneur de venir sanctifier, voyez, transformer le pain et le vin dans son corps et dans son sang. Et il y a quatre prières essentielles, et dans l'une d'elles, on a cette très belle, voyez, cette très belle manière de comprendre le mystère. L'Esprit Saint poursuit l'œuvre de Jésus dans le monde et il achève toute sanctification. Achever, c'est-à-dire conduire à son terme, voyez, dans cette progression sans fin, voilà, sa perfection. Car le règne, dit saint Paul en Romains au chapitre 14, verset 17, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et donc là, c'est la dimension nouvelle que nous soulignons ici, voyez, c'est que le règne de Dieu est lié aussi à l'œuvre de l'Esprit. Et il y a une dimension trinitaire. Le nom du Père, voyez, qui est manifesté, révélé par le Fils, et qui est qui trouve son accomplissement et l'accomplissement de la mission de Dieu en nous grâce à l'Esprit Saint. Et donc il y a une part, et c'est le Dieu unique qui nous crée, qui nous recrée, qui nous sanctifie, mais chaque personne divine de la Trinité a sa mission propre. Hein. Et dans un combat, voilà, dans une unité, bien sûr, dans un combat décisif est engagé, un combat décisif est engagé entre la chair et l'esprit. Vous voyez, la chair et l'esprit, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu, c'est notre esprit, et qui est appelé à être habité, visité par l'Esprit de Dieu, imbibé de la sainteté de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Voyez, et la chair est faible et l'Esprit, lui, est fort. Alors, je vais citer, le mieux, c'est de citer saint Paul. Au Galates, chapitre 5, versets 17 à 25. Je ne vais pas tout citer, mais juste l'un ou l'autre des versets. Car la chair, dit saint Paul, désire contre l'esprit. Et la chair, c'est pas que le corps, c'est aussi le cœur malade, voyez, par la concupiscence, voyez, hein, c'est le corps et le cœur. Donc la chair,
psychologique.
Oui, dans un langage moderne. Voilà, car la chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair. De fait, ils sont opposés l'un à l'autre de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Voyez, pour le dire autrement, le bien que vous voudriez, vous ne le faites pas en raison de cette opposition, ce combat qui se joue en nous. Hein, voilà. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, hein, je termine la citation de saint Paul, si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit Saint, hein, vous n'êtes pas sous la loi. Sous la loi, sous-entendu, du péché. Voyez, et donc, nous avons donc à demander à Dieu chaque jour d'éclairer notre cœur par son esprit et de le purifier. La présence de l'Esprit Saint, c'est pour que notre esprit à nous, notre intelligence, voyez, soit ajustée à l'Esprit de Dieu, qui est pur, qui est saint, qui ne veut que des choses bonnes. Or, notre esprit à nous est trompé par l'ennemi. Et il nous faut désirer cette visitation de Dieu en nos cœurs, en nos âmes, en notre esprit, vous voyez, dans tout notre être, mais par notre esprit, afin de discerner, c'est-à-dire de reconnaître ce qui est vraiment bien pour moi, et non pas l'illusion du bien que me suggère l'ennemi sans arrêt, et qui est un bien éphémère, un bien égoïste, vous voyez, un faux bien.
Un bien qui conduit au mal, une forme de bien. Ça paraît extérieurement un bien, et en fait c'est un mal, parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu.
Et saint Paul encore, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 12. « Que le péché ne règne donc plus dans vos corps, dans votre corps mortel. Mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Voyez, pour éviter, voyez, que ne règne en nous le péché et que Dieu règne, voyez, et non pas le péché, voyez, il n'y a pas d'autre alternative pour le dire autrement. Il n'y a pas une troisième voie. Dans la vie spirituelle, il n'y a que deux voies, soit celle de Dieu, soit contre Dieu, avec Dieu ou sans Dieu. Soit j'avance avec Dieu, soit je recule, soit je régresse. Il n'existe pas dans la vie spirituelle de stagnation. C'est une illusion de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est une erreur et un mensonge de notre ennemi qui cherche à nous faire croire qu'on pourrait, quand même, je vais faire une petite pause, j'en ai déjà fait assez, vous voyez, je vais rester un petit peu là où je suis pour l'instant et puis je reprendrai mes efforts un peu plus tard. Non. Les efforts, c'est tous les jours et toute la sainte journée, comme on dit. Vous voyez, voilà.
Oui, mais les efforts, ils sont un peu transfigurés par l'amour. Parce que quand on aime, une chose qui vous casse les pieds, hein, si jamais vous avez à faire votre ménage et que ça vous casse les pieds, hein, eh bien, c'est un effort. Mais si jamais vous attendez votre amoureux, eh bien, faire le ménage, vous allez le faire avec joie parce que vous voudrez que votre amoureux trouve que la maison est belle pour l'accueillir. Hein. Donc, lorsque nous faisons les choses pour Dieu, ça ne doit pas être un effort, mais un acte d'amour. Et quand on aime, tout est transfiguré.
Alors, le chemin de l'amour, voyez, pour faire tout le bien qui est inaccessible à nos seules forces. Saint Paul dit, hein, et je reprends le même verset que je lisais tout à l'heure, voyez, mais offrez-vous à Dieu. Alors, offrez-vous à Dieu. C'est pas facile de s'offrir. Mais en même temps, c'est pas compliqué. Il suffit de le dire. Mon Dieu, je m'offre à toi. Et c'est l'expression de mon désir. Je sais que je me donne imparfaitement. Je sais que je n'aurai jamais fini de me donner. Mais tel que je suis, Seigneur, je viens vers toi parce que je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À la fois, tu désires que je sois parfait, que je progresse, mais tu ne vas pas attendre que je sois parfait pour m'aimer. Tu m'aimes avec mes limites et mon péché. Tu ne me rejettes pas. Je suis vraiment ton fils, ta fille bien-aimée. Et donc, je m'offre à toi tel que je suis parce que je sais que tel que je suis, tu m'accueilles, tu m'acceptes. Tu n'attends pas que je sois autre chose que ce que je suis pour m'aimer. Vous voyez, je t'offre avec ma pauvreté. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Je t'offre ma faiblesse. Je t'offre mon péché même. Même mon péché, je te l'offre, mon Dieu. Je te l'offre pour que tu m'en délivres. Dans la confession que j'en fais, humblement. Vous voyez, voilà ce que veut dire s'offrir. Reconnaître ce que je suis dans ma pauvreté, dans ma faiblesse et dans l'expression de mon désir. Seigneur, tu me connais, tu connais ma faiblesse. Alors, pour que je puisse vivre de ta vie, pour que je puisse accomplir le bien que je suis incapable d'accomplir, viens, sauve-moi, je me donne à toi pour que je puisse vivre aussi l'accueil du don de toi en échange, ce mystère, ce mystérieux échange, voyez, d'amour. Nous, on donne peu d'amour. Et lui nous donne tout. Et nous, on sait qu'on donne très peu. Et cette inégalité, elle ne gêne pas Dieu. Vous voyez, on n'arrivera jamais à la cheville du bon Dieu. Mais ça n'empêche pas le bon Dieu de se donner à nous totalement. Il ne se donne pas totalement qu'à Jésus, mais à chaque personne humaine. Le Père se donne totalement. Voilà la folie de l'amour. Et donc ainsi peut venir en nous, voyez, le règne de Dieu progressivement. C'est progressif. Et il nous faut être patients envers nous-mêmes. Comme Dieu est patient envers nous, plus que nous sommes capables de l'être envers nous-mêmes. Voyez.
Juste par rapport au progressivement, j'aurais voulu rajouter un petit quelque chose. On ne peut pas avoir un acte qui soit à la fois bon et mauvais, à la fois avec l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Soit nous avons des actes qui sont complètement dans l'esprit de Dieu, soit complètement dans l'esprit du monde. La progression, elle vient dans le fait que plus ça va, plus on peut poser des actes qui sont remplis de l'esprit de Dieu. Hein? Mais il n'y a jamais de mélange. Voilà.
Pour le dire autrement, je ne peux pas être sanctifié, je ne peux pas recevoir et vivre du règne de Dieu dans ma vie si, sachant pertinemment que Dieu me demande d'abandonner telle chose dans ma vie, de me convertir précisément sur un point, et que je refuse, voyez, alors ce règne de Dieu ne peut pas venir en moi. Voyez, la progressivité du règne, elle est freinée et empêchée par l'endurcissement du cœur, le refus délibéré que nous pouvons avoir parfois de donner à Dieu quelque chose dans notre cœur, dans notre vie, que Dieu nous demande pour lui, de lui donner. Et donc on peut pleurer après Dieu, on peut prier des jours et des nuits, ça ne servira à rien, Dieu ne pourra pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu ne peut pas se donner à nous si nous nous refusons de nous donner à lui dans certains points très précis que nous connaissons parfaitement comme étant quelque chose que Dieu nous demande. Et donc, pour le dire autrement, vous voyez, je vais utiliser encore une fois des mots de Dieu, parce qu'ils ne sont pas faciles à entendre, mais cette parole de Dieu, elle est vraie pour tous et toujours. Et donc, je cite Paul, qui écrit aux Colossiens, au chapitre 3, verset 5. Il dit ceci. « Mortifiez donc vos membres terrestres. » Mortifiez donc vos membres terrestres. Et mortifier, ça veut dire si ton œil te conduit à pécher, arrache-le. C'est Jésus qui dit ça. Vous comprenez le sens spirituel de ce qui est dit là? Il y a des choses qui sont à arracher, qui sont à mortifier, qui sont déjà mortes et à reconnaître qu'elles sont mortes. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas de se suicider, bien sûr. Nous ne sommes pas des masochistes et il n'y a pas de morbidité de cette. Là, vous comprenez bien le sens spirituel de cette parole. Mortifiez donc vos membres terrestres. Les membres terrestres, c'est cet attachement désordonné en nous aux biens de la terre. Vous voyez, les biens terrestres, pour désirer davantage les biens du ciel, le bien de l'amour. L'amour seul demeure. Tout le reste, cela meurt et donc doit mourir dans notre cœur, dans notre désir. Or, nous avons trop d'attachement aux biens de cette terre et même à des personnes. De notre famille, des personnes proches, un mari pour sa femme, voyez, pour ses enfants. Voyez, on peut préférer un enfant à Dieu ou son épouse ou voilà ou que sais-je, voyez, un frère ou une sœur, un ami, voyez, que sais-je. Là, et puis après, bon, bien plus facilement encore, les biens de cette terre, une voiture, une maison, un travail. Un cadeau, vous voyez, un cadeau qui a une valeur inestimable, affective pour nous, ben ça peut être un frein pour recevoir et vivre du règne de Dieu.
Et je pense que le confort aussi, combien nous cherchons notre confort.
Ah, évidemment, oui, merci.
Oui, mais c'est important de le dire parce que.
Mais oui, merci, et c'est pour ça que je dis merci. On est bien d'accord. Alors, la venue du règne. On peut l'appeler aussi, vous voyez, que le règne vienne de Dieu, c'est notre vocation, hein? C'est notre appel à la sainteté. Voilà. Donc la venue du règne, la vocation de l'homme à la vie éternelle, ne supprime pas, mais elle renforce le devoir de servir en ce monde l'injustice et la paix par le service aux autres. Par le service aux autres. Ça, c'est le catéchisme numéro 2820. Vous voyez ? Donc, la venue du règne, pour le dire encore autrement, on a déjà parlé, mais on revient sur la fin maintenant encore de cet enseignement sur cette dimension universelle de la foi catholique et donc de notre foi personnelle. Je ne peux pas désirer être chrétien sans vouloir servir la joie et le règne. La venue du règne de Dieu dans le cœur de mes contemporains, quels qu'ils soient, tous les hommes. Jésus est venu pour sauver tous les hommes, dit-il. Et donc nous voulons ce que Dieu veut, nous voulons ce que Jésus veut. Oui. Tout ce que vous voulez, dit Matthieu. Voilà, oui. Pardon, oui.
Oui, je voulais juste rajouter, en servant humblement, comme le Christ nous en a donné l'exemple au moment du lavement des pieds. Hein, se mettre au service des autres, pas en se disant « moi je suis supérieur, puis je fais quand même quelque chose qui est humble ». Non, mais en se voyant pas supérieur à l'autre à qui on lave les pieds, c'est une manière de dire « je me mets à ton service ». Voilà. Parce que ce sont les esclaves hein, qui lavaient les pieds. Et je pense au lavement des pieds là, parce que ça me paraît tout à fait coïncider avec cela.
Merci. Et donc, j'allais citer Matthieu, chapitre 7, à la fin de son discours sur la montagne, hein, ce programme de vie, pas que pour les disciples vivant du temps de Jésus, mais donc pour tous les disciples que nous sommes, moi compris. Hein. Je le cite. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » Pas moins que cela. L'ensemble de la loi et des prophètes, et toute la première alliance, c'est résumé dans cette parole. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Or, bien sûr, qu'est-ce que nous avons envie, nous ? Nous avons envie d'être aimés. C'est ça qu'on a envie. On a envie d'être aimés, on a envie d'être reconnus pour ce que l'on est, des personnes aimables, même si on ne l'est pas vraiment, ou pas toujours, ou pas suffisamment. Vous voyez ? On a envie d'être respectés, on a envie d'être, vous voyez, qu'on nous rende la justice qui nous revient. Voilà ce que nous espérons, ce que nous attendons des autres. Vous voyez ? Et donc ça, est-ce que j'ai à cœur de le faire ? Pour les personnes qui sont autour de moi, est-ce que j'ai suffisamment ce désir
du royaume. Ouais. Toujours en vue du royaume, parce qu'il y a des personnes qui vont satisfaire tous les désirs des personnes pour se faire aimer d'elles, mais finalement, si c'est dans le sens contraire du royaume, eh bien, ça n'ira pas. Il faut vraiment que ce soit dans le sens du royaume.
C'est l'autre écueil. Il y a deux écueils. Le premier qui était mentionné par la parole de manière directe, c'est l'égoïsme. Voilà. Mais ce que Marie-Christine dit, c'est qu'en effet, l'autre écueil, c'est que dans un certain altruisme, ouverture, voyez, et intercession pour les autres, il peut y avoir un oubli de soi-même, qui n'est pas un oubli selon l'Évangile, mais qui peut être une fuite de ce que Dieu me demande de faire et du bien que j'ai à faire. Vous voyez ?
D'être dans la vérité, parce que l'amour sans la vérité, hein, et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous aimons les personnes d'une manière qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, eh bien, nous pouvons faire beaucoup plus de mal hein, que nous ne pensons. Hein. Il faut vraiment aimer les personnes, c'est-à-dire que ça implique aussi de pouvoir dire la vérité à un frère, lui dire « attention, là, tu agis mal ». Hein, mais moi aussi, corrige-moi quand je dirais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais vous voyez, c'est cette correction fraternelle à laquelle nous sommes appelés. Parce que dire, si on veut que faire plaisir, l'amour, c'est pas faire plaisir. L'amour, c'est conduire au Christ. Voilà. J'aime quelqu'un quand je fais tout pour le conduire au Christ, pour l'aider à marcher vers le Seigneur. Hein? Et c'est pas un amour affectif. Et nous avons, c'est toujours un mot un peu piégé, le mot amour, parce que nous pensons toujours que c'est faire du bien tranquillement physique, enfin voilà, psychologiquement. Non, faire aimer quelqu'un, c'est tout faire pour que cette personne puisse rentrer au ciel quand il mourra, donc dans une démarche de conversion.
Pour terminer, et oui, en conclusion, je vais citer saint Pierre Chrysologue, hein, un père de l'Église. Nous demandons que le diable périsse pour que Dieu règne, que le péché prenne fin, que la mort meure, pour que, devenus libres, nous régnions pour la vie éternelle. Voilà ce que sommes appelés à désirer. Vous voyez, toute cette mort de l'ennemi et la dimension concrète de tout ce que représente pour nous cet ennemi, voilà, pour que nous puissions, devenus libres, voyez, régner pour la vie éternelle. En sachant bien que la liberté n'est pas à confondre avec le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je peux déterminer par moi-même ce que je suis appelé à accomplir, voyez, comme action. Voyez, personne ne décide à ma place. Voyez, mais et la liberté, c'est conduire le libre arbitre toujours plus vers le bien. Le libre arbitre, il me donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Enfin, je peux choisir tout ce que je veux. Je me détermine moi-même dans les actions que je fais. Mais le libre arbitre, il peut choisir le bien ou le mal. Et nous savons très bien combien notre libre arbitre choisit le mal par le péché ou par l'erreur. Voilà. Mais la sainteté, voyez, ça va être toujours plus ordonner mon libre arbitre, ma capacité de me déterminer par moi-même dans mes actions, toujours plus vers le bien, qui vérifie la vérité de l'amour, puisque aimer, c'est faire le bien et rien d'autre.
Vers la volonté de Dieu.
Voilà. Fin de citation. J'arrête l'enregistrement.